Bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une affaire qui a occupé tous les esprits cette semaine, la question de la reconstruction de Notre-Dame et surtout de son financement.
Mais oui, car passé le temps de la sidération et de l'émotion, l'incendie de Notre-Dame a permis de mettre en lumière un mécanisme économique jusqu'alors peu connu, le mécénat et la défiscalisation à la française. Ainsi, quelques heures à peine après le départ de l'incendie, les principales richesses de France s'engageaient à verser près d'1 milliard d'euros pour rebâtir la cathédrale de Paris. Mais comme nous l'apprenait l'anthropologue Marcel Mauss, le don ne se fait jamais sans contrepartie, il entraîne toujours un contre-don. En l'espèce, outre les avantages évidents de les faire apparaître comme les sauveurs de Notre-Dame, cette contrepartie se révélait sonnante et trébuchante, puisque tout don à une association philanthropique, culturelle ou éducative donnait droit à une réduction fiscale de 60% sur l'impôt sur les sociétés. Si bien qu'on a vu se multiplier ces dernières années les fondations d'entreprises donnant joyeusement aux œuvres de leur choix.
Ces déductions fiscales atteignant ainsi en 2017 près d'1 milliard d'euros contre à peine 230 millions il y a 10 ans.
Absolument, avec des dons extrêmement concentrés, puisque selon un article de les 10 premières entreprises donatrices bénéficient à elles seules du tiers de l'enveloppe fiscale. Pour se donner une meilleure idée, 99% des entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de l'ordre de quelques milliers d'euros, quand LVMH, première de la liste, bénéficiait en 2017 de près de 62 millions d'euros de déduction fiscale. Alors bien sûr, François Pinault a annoncé qu'il renonçait à cette défiscalisation et Bernard Arnault a révélé qu'il n'y avait pas droit, ayant déjà atteint le plafond autorisé pour son entreprise, soit près de 210 millions d'euros de dons de la part de LVMH. Mais ce n'est pas tant les sommes en question qui posent problème, ni le fait que ces milliardaires donnent pour reconstruire un trésor de l'architecture française. On leur aurait d'ailleurs probablement reproché s'ils ne l'avaient pas fait. Non, ce qui pose problème, c'est le système dans lequel ils s'insèrent et ce qu'ils disent de l'avenir de notre vivre ensemble.
Certains ont ainsi critiqué que l'engagement des grandes fortunes se substitue de plus en plus à l'action de l'État.
Exactement, et si tout cela coûte cher, bien entendu, pourquoi ne pas favoriser la contribution plutôt que la donation? Comment imaginer en effet construire une volonté commune en se fondant sur le seul volontariat de nos plus grandes fortunes? C'est la question que l'on pourrait se poser face à la multiplication de ces générosités instantanées. Pourquoi s'empresser de donner pour une cause en particulier quand d'autres associations, œuvres de charité, peinent à se financer? Pourquoi ces vieilles pierres plutôt que l'abbé Pierre, si ce n'est l'émotion en mondovision à laquelle il est impératif de répondre pour entretenir son image et faire bonne impression?
Mais la valorisation de cette forme de charité privée nous interroge aussi sur ce qui permet de faire société.
Absolument, dans un article de 2006 déjà, le philosophe Frédéric Lordon s'interrogeait sur l'extinction pure et simple de l'action publique entièrement dissoute dans la morale du transfert charitable. Pour Frédéric Lordon, cette montée en puissance du don privé dans un contexte de baisse des dépenses publiques n'est pas sans conséquence, puisque ce sont désormais les acteurs privés qui sont chargés de déterminer l'orientation de leurs dépenses en fonction de leur expérience et des valeurs qu'ils souhaitent porter. Un profond mouvement de bascule qui remet en cause notre capacité d'organisation et de délibération collective pour y substituer un ordre politique et une morale fondée sur l'intérêt.